En français, il existe plusieurs expressions avec le mot « bouche ». Par exemple, on dit « faire la fine bouche » ou « la petite bouche ». Il y a aussi « la bouche en cœur » ou « la bouche bée », etc. Au XVIe siècle, le poète Rémy Belot a écrit « douce et belle bouchelette, plus fraîche et plus vermeillette que le bouton englantin au matin ». Ces vers sont joliment bien composés, mais cette bouchelette sert aussi à parler, une activité à contrôler de très près, ce que le maître de la sagesse ne cesse de répéter. Je continue à lire dans le chapitre 21 du livre des Proverbes. « Celui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. » Proverbe 21, verset 23, Proverbe 12, 13, 13-3, 14-3, 17-27 et 28, 18-21. Il faut être très prudent quand on parle, car par la parole, on dit du bien ou du mal, on fait du bien ou du mal, et on se fait des amis ou des ennemis. Je continue. Le moqueur est arrogant et hautain. Il agit poussé par un orgueil démesuré. Proverbe 21, verset 24. Dans le livre des Proverbes, certains thèmes reviennent sans cesse, comme les pauvres, le mensonge, la langue, l'orgueil, ou encore le moqueur. Dans l'Ancien Testament, moqueur n'a pas le même sens qu'en français. Il vaut plutôt dire fourbe et méchant en même temps que moqueur. En d'autres mots, on peut dire que c'est quelqu'un qui se place au-dessus de toute règle morale. Au chapitre 21, le moqueur a été décrit comme un possédant un regard hautain et un cœur orgueilleux. Proverbe 21, verset 4. Je continue. Les désirs du paresseux le feront mourir, car il refuse de travailler de ses mains. Tout le long du jour, il est en proie à la convoitise, alors que le juste donne sans retenir. Proverbe 21, verset 25. Comparez Proverbe 13, 4 et 19, 24. Le paresseux envie ce que les autres possèdent, parce qu'il n'a même pas de quoi pourvoir à ses besoins les plus élémentaires. Ne pouvant se nourrir correctement, il prend soin de lui, il tombe facilement malade. Le juste, par contraste, est à la fois bosseur et généreux. Proverbe 14, 21, 19, 17, 22, 9. Psaume 37, les versets 25 et 26. Je continue. Le sacrifice des méchants est une horreur, et encore plus quand il l'offre avec des arrière-pensées criminelles. Proverbe 21, verset 27. Le malfaisant ne tient aucun compte de la loi morale de Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas religieux. Tant s'en faut. Mais Dieu a en horreur l'hypocrite d'un formaliste de façade. Proverbe 15, verset 8. Au début de ce chapitre, Salomon a déjà dit que l'Éternel préfère un homme qui fasse ce qui est juste et droit plutôt que des sacrifices. Proverbe 21, verset 3. Je continue le texte. Le témoin mensonger périra, mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Le méchant se donne un air assuré, alors que l'homme droit affermit sa conduite. Proverbe 21, les versets 28 et 29. Le faux témoin est endurci par le mal et souvent condamné par le maître de sagesse. Dans Proverbe 6, 19, 12, 17, 14, 5 et 25, 19, 5 et 9, 25, verset 18. Dès que le juge se rend compte que la déposition qu'il a reçue est fausse, le faux témoin est puni très sévèrement. Par contre, l'homme intègre écoute tout ce que les uns et les autres ont à dire concernant l'affaire qui doit être jugée. Sûr de lui, il parle avec conviction et son avis est pris en compte. Quand Jésus a comparu devant les chefs religieux, ses vermines ont cherché à le faire condamner en soudoyant des faux témoins. Mais ça n'a pas marché, parce qu'ils se contredisaient. Mais finalement, deux faux témoins ont tordu les paroles de Jésus et affirmé « Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours ». Matthieu 26, verset 61. Pilate n'est pas tombé de la dernière pluie. À peine commence-t-il à interroger Jésus qu'il comprend que les chefs religieux ont concocté une accusation bidon. Mais en politicien, opportuniste, véreux, il se soumet au désir de la foule et ordonne de crucifier un innocent. Matthieu 27, les versets 18 à 26. Je continue. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Proverbe 21, verset 30. Salomon affirme ici encore la souveraineté absolue de l'Éternel. Comparez Proverbe 21, verset 1, qui est le seul maître de l'univers. Dans la seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est seulement pour la vérité que nous en avons. » 2 Corinthiens 13, verset 18. Les êtres humains et les anges déçus ne peuvent strictement rien contre le Tout-Puissant qui contrôle tout événement et toute circonstance, qu'elle soit dans ma vie, au plus profond des océans ou dans la plus lointaine des galaxies. Dans le livre de Job, on lit « Auprès de Dieu se trouve la sagesse et la force. C'est en lui qu'appartiennent conseil, intelligence. Voici ce qu'il détruit, nul ne le rebâtit, et s'il enferme un homme, personne n'ouvrira. Il arrête les eaux, et c'est la sécheresse, et dès qu'il les déchaîne, la terre est dévastée. Auprès de lui résident la force et la prudence. Il tient en son pouvoir celui qui se fourvoie et celui qui s'égare. » Job 12, les versets 13 à 16. La souveraineté de Dieu signifie aussi qu'il n'a pas besoin de moi pour prouver son existence ou la véracité de sa parole. Il me suffit donc de l'expliquer, et lui, par le Saint-Esprit, se charge du reste. Je finis maintenant de lire le chapitre 21. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Proverbe 21, verset 31. Au XVIIe siècle, l'écrivain français Bussy Rabutin a écrit « Dieu est d'ordinaire pour les gros bataillons contre les petits. » Sans doute, mais pas toujours, quand Asa, roi de Juda, est confronté à une immense armée, il sait que tout est perdu. Alors, il invoque Dieu, et dans le second livre des Chroniques, on lit « Éternel, personne d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. Viens donc à notre secours, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. » Alors l'Éternel battit les Éthiopiens devant Asa et les Judéens, et ils prirent la fuite. De Chroniques 14, les versets 10 et 11. Bien avant Asa, dans un psaume, le grand roi David dit « Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. » Psaume 27, verset 3. Le chapitre 22 continue les sentences du maître de sagesse. Je commence à le lire. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Proverbe 22, verset 1er. Cette maxime est proche de notre dicton. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Au fil des siècles, beaucoup de personnes se sont fait un nom sur le champ de bataille. C'est le cas des vaillants guerriers du roi David, de Samuel 23, les versets 8 à 39. Cependant, la meilleure façon de se faire une bonne réputation est en étant bienveillant dans ses paroles et ses actes. Une telle conduite agit comme un charme sur les esprits et les cœurs. Par contre, celui qui s'enrichit par des moyens tordus s'attire le malheur. Proverbe 1, verset 19, 10, verset 2, 13, verset 11. Au chapitre 10, Salomon a déjà dit: le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Proverbe 10, verset 7. Je continue le texte. Riches et pauvres ont ceci en commun. C'est l'Éternel qui les a fait l'un l'autre. Proverbe 22, verset 2. Dans ce chapitre, le pauvre est mentionné 5 fois. Devant Dieu, tous les hommes sont égaux, quel que soit leur statut social, et un de leurs devoirs est de s'entraider. Proverbe 31, verset 15. La dignité et la valeur de l'être humain tirent son origine du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu. Dans le livre de Job, on lit « Celui qui m'a tissé dans le sein de ma mère, ne les a-t-il pas faits, eux, tout autant que moi ?» Oui, c'est le même Dieu qui nous a tous formés dans le sein maternel. Job 31, verset 15. Bien que Dieu soit notre Créateur, nous sommes tous issus d'Adam. Le livre des Actes rapporte que l'apôtre Paul a dit aux Athéniens « À partir d'un seul homme, Dieu a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. » Acte 17, verset 26. Parce que nous descendons d'Adam, nous avons en commun avec lui une nature corrompue qui nous sépare du Créateur, et les uns des autres. Pour devenir enfants de Dieu, il faut une nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ. Nous avons tous le même Créateur, mais la paternité universelle de Dieu est un mythe. Seuls les croyants en Jésus-Christ sont frères et sœurs et ont Dieu pour Père. La preuve est que Jésus a dit aux religieux juifs « Vous avez le diable pour Père » Jean 8, verset 44. Je continue le texte. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Mais le sot poursuivent leur chemin et en subissent les conséquences. Proverbe 22, verset 3. Ce proverbe est répété plus loin dans Proverbe 27, verset 12, et cette pensée a déjà été exprimée dans Proverbe 14, verset 16. L'homme sage prépare son avenir avec la possibilité de coup dur. Il existe pour cela toutes sortes d'assurances qui permettent de se garantir contre les aléas de la vie. On met de l'argent de côté pour sa retraite, et on peut même payer d'avance les pompes funèbres et se programmer un enterrement de première classe. Mais là s'arrêtent les ressources humaines. En effet, rien n'est prévu pour le grand passage qui vous catapulte dans l'au-delà. Mais comme le commun des mortels ne veut pas trop y penser, il fait comme l'autruche proverbiale, il cache sa tête dans le sable. Un couple de la haute société annonce ses fiançailles et fait la une des journaux locaux. Il achète une magnifique maison qui est rénovée et de fond en comble, et équipée avec les appareils ménagers les plus modernes. Il s'offre aussi des meubles de style, puis se marie en grande pompe. Ils partent en voyage de noces, mais leur voiture manque un virage en épingle à cheveux et tombe dans un précipice. Tous deux sont tués sur le coup. Ils n'ont jamais habité leur villa de luxe et les familles l'ont barricadée pour la condamner. Elle est toujours là, bien entretenue, mais personne n'y habite. Ce couple avait tout prévu pour leur vie ici-bas, mais ils sont partis dans l'au-delà sans avoir fait la moindre préparation. Je continue le texte. Sois humble et aie de l'Éternel une crainte respectueuse. Alors tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Proverbe 22, verset 4. Une personne humble est souvent quelqu'un qui révère l'Éternel, c'est-à-dire qui l'honore en obéissant à ses lois morales et qui désire le servir et l'adorer. Ces deux attitudes fonctionnent ensemble. Proverbe 15, verset 33, et font partie de la conduite pieuse du juste. Dans Proverbe 21, verset 21. Je continue le texte. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Celui qui tient à sa vie s'en tiendra éloigné. Proverbe 22, verset 5. Contrairement à une idée reçue, les malfaiteurs ne mènent pas une vie cousue au fil blanc. Ils ont de sérieux problèmes, y compris la possibilité constante d'y laisser leur peau. Une fois encore, le sage est celui qui évite le mal et donc également ses conséquences. Je continue. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux. Il n'en dévira pas. Proverbe 22, verset 6. Plusieurs autres proverbes donnent des directives concernant la discipline. des enfants. Proverbe 13, verset 24, 19, 18, 22, 15, 23, 13 et 14, 29, 15 à 17. Le mot traduit par « apprend » veut dire « consacré ». Il est similaire au verbe égyptien qui signifie « donner aux dieux ». Les parents ont la responsabilité de donner à leur progéniture une éducation qui est conforme au gouvernement moral de Dieu et à corriger leur entorse faite à sa loi. Ce proverbe, comme les autres, n'exprime pas un axiome absolu qui est toujours vrai en toutes circonstances, mais un principe qui s'applique dans une majorité de cas. Parce que ce monde est sous la botte du prince des ténèbres, le mal est encore et toujours bien présent. Je continue. Le riche domine le pauvre, et celui qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Proverbe 22, verset 7. Sous l'ancienne alliance, celui qui ne peut pas rembourser ses dettes est simplement vendu comme esclave. Exode 21, les versets 7 à 11, Lévitique 25, verset 39, Deutéronome 15, 12, 2 Rois 4, 1 et Néhémie 5, les versets 5 à 8. Je continue. Qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et son règne de terreur prendra fin. Proverbe 22, verset 8. Plusieurs passages des Écritures expriment la même idée dans le livre de Job en lit. D'après ce que j'ai vu, les artisans d'iniquité et ceux qui sèment le malheur en moissonnent les fruits. Job 4, verset 8, comparé Osée 10, verset 13, Ésaïe 10, verset 5 et Galates 6, verset 7. Je continue. L'œil bienveillant sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Proverbe 22, verset 9. Une maxime similaire a déjà été énoncée dans le chapitre 11, verset 25, et nous avons son corollaire dans la seconde épître aux Corinthiens, quand Paul leur demande d'être généreux envers les croyants pauvres de Jérusalem. Il écrit « Semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. » 2 Corinthiens 9, verset 6. Je continue. « Chasse le moqueur et la discorde prend fin. » Les contestations et les insultes cesseront. Proverbe 22, verset 10. Comme le moqueur est une source intarissable de troubles et de querelles, Proverbe 21, verset 24, 24, verset 9, Psaume 101, verset 5, en les bannissant, on rétablira la paix. Je continue. Celui qui a des intentions honnêtes a des lèvres pleines de grâce, et le roi est son ami. Proverbe 22, verset 11, comparé Proverbe 14, verset 35, 16, verset 13 et 21. Un cœur pur est la source de la véritable éloquence, celle qui est une bénédiction pour les autres. Un dirigeant intelligent s'entoure de tels conseillers. Je continue. L'Éternel veille sur l'homme intelligent, mais il rejette les projets des perfides. Proverbe 22, verset 12. Le sage est protégé par Dieu, mais le malfaisant voit ses actions mauvaises frustrées. Je continue. Le paresseux dit, « Il y a un lion là, dehors. Je risque d'être déchiré en pleine rue. » Proverbe 22, verset 13, comparé avec Proverbe 26, verset 13. L'idée ici est que pour éviter de sortir de chez lui et aller travailler, le paresseux invente toutes sortes d'excuses ridicules qui justifient son inaction. Le lion ne s'aventure pas dans le voisinage d'une ville et n'y pénètre jamais sauf s'il s'agit d'un châtiment divin comme celui relaté dans le chapitre 17 et au verset 25 du second livre des Rois. Je continue. La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. Proverbe 22, verset 14. Le maître a déjà donné cet avertissement plusieurs fois. Proverbe 2, verset 16 à 22, 5, 3 à 6, 6, 24 à 26, 7, 10 à 23. Se laisser entraîner par une femme séductrice, c'est tomber dans un piège dont on ne sort pas. Il ne faut jamais se mettre en situation où on risque d'être tenté. Jésus a dit à ses disciples, « L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Matthieu 26, verset 41. Je continue le texte plus loin et je termine le recueil des proverbes de Salomon. Celui qui opprime l'indigent, finalement, l'enrichit. Celui qui donne aux riches, finalement, l'appauvrit. Proverbe 22, verset 16, comparé avec Proverbe 14, verset 31, Proverbe 22, verset 22 et 23, chapitre 28, verset 3. D'une manière générale, ces deux principes se réalisent sur le temps. Mais il y a toujours des exceptions du fait que la volonté souveraine de Dieu et de ses projets pour les riches, les pauvres et les oppresseurs. Je continue de lire dans le chapitre 22 avec l'intention d'une nouvelle collection de 30 proverbes. Chapitre 22, verset 17, 24, verset 22, qui constitue le premier recueil des maximes des sages. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Chaque instant, tu les auras à ta disposition, afin que tu mettes ta confiance en l'Éternel. Je vais t'instruire, toi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des paroles de vérité, des informations sûres et certaines. Ainsi, tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie chercher. Proverbe 22, versets 17 à 21. Le compilateur de cette portion du livre des proverbes donne l'objectif qu'il s'est fixé en groupant des proverbes empruntés à d'autres auteurs inconnus et dont les noms n'importent pas. Néanmoins, on relève aussi de nombreux parallèles avec les dictons du sage égyptien Amenemope, qui a vécu entre les années 1075 et 1300 avant Jésus-Christ. Contrairement aux proverbes, les paroles de sagesse de Amenemope adressent à son fils sont purement humanistes. Elle enseigne les qualités, les comportements et les attitudes requis pour mener une vie heureuse en dépit des circonstances économiques et sociales difficiles. Pareillement, le compilateur se propose d'indiquer au lecteur la bonne voie à suivre afin d'acquérir la sagesse. Mais lui tient compte de Dieu. Il se comporte comme un maître qui parle en tête à tête à chacun des élèves qui lui a été confié. Les sentences de ce nouveau recueil sont plus liées les unes aux autres que celles du recueil de Salomon. Dans cette introduction, le maître m'exhorte à être très attentif aux maximes qu'il va m'enseigner, à les mettre immédiatement en pratique et à les apprendre par cœur parce qu'elles susciteront en moi la confiance en Dieu. Une fois ainsi équipé, je posséderai une norme sûre que je pourrai appliquer à tous les problèmes de la vie auxquels je serai confronté et pour lesquels on me consultera. Je continue le texte. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain parce qu'il est indigent. Et n'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main, et il ravira la vie de ceux qui auront ravi leur bien. Proverbe 22, versets 22 et 23, comparez Proverbe 14, versets 31 et 23, les versets 10 et 11. Cette première maxime montre une fois encore le souci des maîtres de sagesse et donc de Dieu pour les pauvres gens. L'indigent est une proie facile parce que, ne disposant d'aucune ressource, il n'est pas en état de se défendre et ne peut donc que subir. Le gros riche, qui prend l'avion, pour la Thaïlande ou ailleurs, peut à sa guise profiter là-bas des enfants abandonnés qui n'ont pas d'autre moyen de survivre que la prostitution. S'il se fait prendre, il peut toujours soudoyer un juge véreux puisqu'il a du fric plein les poches. mais tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il sera puni. Je continue avec la deuxième maxime. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux, et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour rien de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. Proverbe 22, verset 24. Les vices sont comme les tissus colorés de mauvaise qualité. Dans la machine à laver, ils déteignent sur toute la lessive. Il faut s'éloigner de ceux qui ne savent pas se contrôler. Au chapitre 29, on lit « L'homme prompt à la colère provoque des querelles, et celui qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. » 29, verset 22. Je continue avec la troisième maxime. « Ne t'engage pas pour cautionner autrui, et ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlever jusqu'au lit où tu te reposes ?» Proverbe 22, le verset 26 et 27. Cette mise en garde contre le cautionnement d'autrui a déjà été donnée plusieurs fois. Dans Proverbe 6, les versets 1, 5, 11, 15, 17, 18, 20, verset 16 et le 27, verset 13. Il faut à tout prix éviter de se mêler des problèmes d'argent des autres. La loi de Moïse offre une protection aux pauvres. Dans le livre de l'Exode, on lit « Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu te lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est là sa seule couverture. Autrement, dans quoi s'enveloppera-t-il pour dormir? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. » Exode 22, versets 25 et 26. Le croyant doit garder à l'esprit ce souci constant de Dieu pour les indigents et agir en conséquence.